Dieu règne. Et c'est un plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous, d'avoir avec nous le pasteur Rico Trottmann de l'Église évangélique de Plein Palais. Une joie de t'avoir avec nous, cher Rico. Ça fait pas des années qu'on se connaît. On se connaît pas non plus d'une façon très, très profonde non plus. C'est pas comme si on avait fait les quatre guerres ensemble, même s'il y en a eu deux. Mais, en fait, je suis vraiment reconnaissant d'avoir croisé sa route parce qu'il y a à peu près un an de cela, vous le savez, je me suis retrouvé sans église et je ne savais pas ce qui allait se passer pour ma vie par rapport au Seigneur, par rapport à ce qu'il voulait, par rapport au pastorat, etc. Et il a fait partie de ces premières personnes qui m'ont vraiment, vraiment encouragé, vraiment soutenu, malgré le fait qu'on ne se connaissait pas depuis des années. Et on a pris un temps ensemble au-delà des paroles. Eh bien, il a vraiment été une source de réconfort pour moi. Il m'a invité à prêcher. J'ai eu l'occasion de pouvoir prêcher à quelques reprises dans son église. Et la première fois, comme je le fais souvent, je vais voir un peu qu'est-ce qu'il se dit dans l'église, un peu pour pas être trop en décalage. Bon, vous connaissez un petit peu mon style. Fait que des fois, je dis « Ah, bon ». Et je suis allé écouter ses messages, deux, trois ou quatre messages, trois messages. Par curiosité, puis voir un petit peu pour que je puisse m'adapter. Et je me suis laissé prendre au jeu, en fait. Sa prédication, du coup, j'ai oublié que je l'écoutais pour voir un peu c'était quoi un peu où c'était. Et ça m'a percuté. C'est quelques messages m'ont percuté positivement, m'ont restauré, m'ont fait du bien. Et je suis reconnaissant pour ce que Dieu a mis dans sa vie. Et par la suite, on s'est vus, on a pris des temps ensemble. Donc, c'est vraiment une joie de t'avoir avec nous. Et il a fait partie des premiers. Philippe, inquiète-toi pas. Et pourtant, on ne se connaissait pas. Inquiète-toi pas, Seigneur, il n'a pas fini. Il y a encore des plans pour toi. Et je n'avais aucune idée. C'était le néant complet de ce qui concernait mon avenir et ce que Dieu avait pour nous et notre famille. Puis aujourd'hui, on est là. On est vraiment reconnaissants. Yes! Donc, c'est une double joie d'être avec vous, d'être là ensemble et de l'avoir avec nous. Et... en fait, rapidement, Rico est pasteur de deux ados et mari d'une seule épouse. Père de deux ados et mari d'une seule épouse, Jacqueline, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc, ça fait 7 ans qu'il est pasteur à l'église évangélique de Plein Palais et il me disait justement qu'il a énormément à cœur la France. La France est sur son cœur. Il a été 15 ans pasteur à Oyonnax. Et Rico, c'est une joie de t'avoir avec nous. J'aimerais qu'on puisse lui exprimer notre joie en applaudissant chaleureusement et en l'accueillant. Merci beaucoup, Rico.
Excellent. Oui, ma famille n'a pas pu m'accompagner ce matin, mais ils sont juste à côté, à Genève, ils sont dans l'église aussi. Ils vivent le même culte pour le même Seigneur et nous sommes unis en lui. Je suis content d'être ici avec vous. Il y a beaucoup de jeunes ici, hein, beaucoup d'ados. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai un message pour vous les jeunes. Hein. Oui, et puis, comme tu disais, j'étais pasteur en France. Enfin, il faut juste traverser le Jura, ce qui n'est pas toujours évident. Ben, les routes sont sinueuses, mais j'ai passé des belles années à Oyonnax. Et la France est restée ancrée dans mon cœur. Quoi. Je suis un peu français. Alors, j'aimerais vous partager ce message-là ce matin, la puissance de la bénédiction des parents. Qui est parent ici? Qui a des enfants? Voilà. Et puis, tous les jeunes, vous aurez un jour des enfants par la grâce de Dieu. Amen. Durant mes vacances, j'ai lu ce livre-là, La puissance de la bénédiction des parents. Il existe en anglais, il existe en français, il existe en allemand, il n'existe pas en français. Alors, je vous fais la pub d'un livre qui n'existe pas en français. Du coup, je vous dis juste, c'est ma source un peu aussi parce que j'ai été vraiment... Dieu m'a rendu attentif à des choses et il m'a montré des choses à travers ce livre que je voudrais partager avec vous ce matin. Vraiment, quand vous êtes parents, le Seigneur, il vous a donné une clé. Vous pouvez utiliser cette clé. C'est une puissance que vous avez dont vous n'êtes pas conscient forcément. Des choses que vous pouvez dire ou faire ou que Dieu vous a aussi donné en tant que parent. Vous pouvez aussi mal utiliser cette clé. Vous pouvez aussi ne pas l'utiliser du tout. Dommage aussi dans ce cas. Les vacances, donc, c'était pour moi la lecture de ce livre, mais pas que, parce que j'étais avec les miens. Et si je fais que lire, ma femme, elle va me dire à un moment donné, t'es avec nous quand même, on est ensemble. Donc, on a aussi vécu des moments forts. Et ce livre, ce thème, et en même temps de voir mes ados qui ont 17 et 15 ans, de m'entretenir avec eux, d'avoir des discussions, parfois plus ou moins joyeuses, parfois plus ou moins, on était, voilà, comme si je dis ado, ça suffit, n'est-ce pas? Voilà, on a des ados et on a entretenu nos liens de famille et ce n'est pas évident dans le monde dans lequel nous vivons. Je pense que plusieurs d'entre vous vivent peut-être la même chose que quand même on vit dans un monde où les forces de gravitation sont énormes, les forces centrifugales, où on n'arrive presque plus à se revoir et à se retrouver. Et qu'est-ce qu'on a fait? Matteo, mon plus jeune fils, il nous a beaucoup parlé de Ronaldo. Il m'a expliqué que Ronaldo est vraiment un homme intègre. Si vous voulez tout savoir sur Ronaldo, et comme quoi qu'il a payé ses impôts correctement et tout, il va vous le blanchir et Ronaldo est un agneau. Enfin, on a eu des discussions comme ça avec eux. Et c'est vraiment très intense, c'est très beau à la fois, c'est intime et tu vois le développement d'un humain. En fait, dans notre propre développement personnel, sans l'approbation, sans la bénédiction des parents, nous ne pouvons pas vraiment nous développer, nous restons incomplets. Et parce que cette approbation, cette bénédiction n'a pas été dite, il y a beaucoup de personnes qui sont mutilées aujourd'hui, qui vivent avec des handicaps intérieurs graves. Jésus-Christ lui-même a été béni par son Père. Je prends juste ce texte de Luc 33, verset 21, où nous pouvons comprendre que ce jour-là, Jésus a reçu la pleine approbation de son Père. Même Jésus ne pouvait pas commencer son ministère ni accomplir le moindre miracle avant que cette bénédiction de la part de son Père ait été dite. Ce jour-là, tu es mon fils bien-aimé. Écoutez-le. En lui, j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils bien-aimé. Imaginez-vous Jésus, il avait quel âge là? 30 ans, n'est-ce pas? Comment Jésus s'est-il forgé son identité? Quand il jouait avec les enfants à Nazareth, il disait « Ah, c'est le fils de Joseph !» Mais Jésus en lui-même, il savait qu'il n'était pas le fils de Joseph. Il devait avoir des conflits intérieurs comme nous. On a pu les connaître dans notre propre croissance. Qui suis-je? Quelle est vraiment mon identité? Jésus savait qu'il n'était pas le fils de Nazareth. Il savait qui était son vrai père. À 12 ans, il était dans le temple et il y a là quelque chose qui apparaît quand il dit « Je dois être dans la maison de mon père ». Mais pendant toutes ces années, on voit Jésus, un homme qui se soumet, un homme qui grandit intérieurement. Et pourtant, il ne peut pas accomplir de miracles. Le moment n'était pas venu. Et ici, cette bénédiction qui vient du Père, « Tu es mon Fils ». Vous savez, il y a une bénédiction fondamentale aussi. C'est celle que Dieu a dite sur toute sa création. Quand il a dit « C'est très bien ». Et il l'a dit en particulier sur l'homme et la femme. Quand il a créé l'homme et la femme à son image, Dieu les bénit et Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ça, c'est la première chose que Dieu a dite sur toi, sur vous, quand il vous a vu. Avant que même ta mère et ton père ont pu te voir, il t'a vu, Dieu a déjà dit, c'est très bon, ça va être une créature parfaite. Et avant que tu n'aies pu dire le premier mot, avant que tu n'aies même plus pu crier, avant que tu aies pu manger ton premier petit repas, Dieu t'a déjà béni. La bénédiction de Dieu était déjà là, avant que tu fasses ton premier souffle. C'est quand même fort. Alléluia. Dieu m'a béni de base. C'est notre besoin. Nous voulons tous être bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait non, mais j'en veux pas, ça va. Quelqu'un qui ne veut pas être béni aujourd'hui? As-tu été béni depuis le jour de ta naissance? Est-ce que quelqu'un a posé sa main sur toi et t'a dit, tu as toute mon approbation? Ça peut être un père, ça peut être une mère, ça peut être un grand-parent, ça peut être aussi des personnes dans l'église. Parfois, il y a des parents qui sont absents. Parfois, les parents ne remplissent pas leur fonction parentale, donc quelqu'un d'autre a pu le faire. Poser sa main bienveillante sur toi et te dire, tu es voulu, tu es bien, je t'aime, j'ai un message pour toi de la part de Dieu. Et vous savez, poser la main sur quelqu'un, c'est dans le contexte d'aujourd'hui, ça peut être plus ou moins bien vu ou mal vécu aussi. Et moi, je parle d'une main bienveillante qui est posée sur toi. Et j'appelle les parents à vraiment utiliser cette bénédiction et à poser leur main. Pas leur grappin dessus, mais leur main dessus. Dans la Bible grecque, le mot pour bénir, c'est eulogéo. Et en français, ça a donné éloge. Hein? Faire les éloges de quelqu'un. Parler dans les superlatifs d'une personne. Vraiment élever et relever le positif. Et dans ce livre de Craig Hill, que je vous ai montré tout à l'heure, il donne comme définition de bénir, aider quelqu'un à entrer dans le dessein de Dieu pour ce qui est de son identité et sa destinée. Et c'est une belle définition. Ce n'est pas juste je te bénis, hein, ça ne s'arrête pas là, ou je t'aime, ou je t'apprécie, c'est aider vraiment quelqu'un à rentrer dans sa destinée, de prendre possession de son héritage que Dieu veut lui donner. Que tu aies 15 ou 65 ans, tu fais partie d'une famille. Tu es né dans une famille, chacun d'entre nous. Bon, peut-être tu vas te dire, mais ma famille, elle est nulle. Ma famille m'a déçu, ils m'ont meurtri, ces gens-là. Je ne veux plus, je n'ai plus de contact avec eux. Mais je veux quand même te dire, tu ne sors pas de nulle part. Tu n'es pas seul. Tu as un héritage, positif ou négatif. Souvent, c'est mitigé. Hein? Donc, quand je vois ma famille, ouais, c'est mitigé, on va dire. Mais, oui, Dieu a été bon avec ma famille. Dieu m'a permis de vraiment entrer dans cette bénédiction. Et mes parents aussi, ils nous ont bénis. Même si parfois ils ont aussi commis des erreurs et qu'on n'a pas apprécié leur façon d'être parents, aujourd'hui tout ça c'est réglé entre nous. Et ça aussi c'est important. Et puis, oui, j'aimerais aussi dire que tu aies 15 ans ou 65 ans, tu peux agir et tu peux éteindre ton influence. Éteindre, non. Non, pas éteindre. Hein. Tu peux étendre ton influence, mon frère, ma sœur. tu peux agir. C'est quand même, oui, c'est un manifeste aussi contre cette victimisation, cette auto-victimisation. Je peux rien faire. Moi, ça a été comme ça. Je suis comme ça. Ne dis jamais je suis comme ça. Et j'ai entendu des chrétiens dans les églises me dire, mais moi, je suis comme ça. Il faut m'accepter comme ça. Je dis non, tu peux pas dire ça. Avec l'aide du Seigneur, je suis une personne en mouvement, je suis un disciple qui apprend, je peux agir, je peux prendre mes responsabilités et je ne serai plus la même personne. Je peux étendre mon influence, vraiment prendre cela de la part du Seigneur. Vous avez la prière de Jabez, par exemple, dans l'Ancien Testament, qui est un exemple d'un homme qui a reçu un nom moche, Jabez. Jabez, le nom de Jabez, il signifie homme de douleur. Peut-être sa mère, à chaque fois quand on appelle Jabez, ça veut dire mal. J'ai mal, mal, mal. Comment tu peux appeler un homme mal ou douleur? Et Jabez, il a fait cette prière, il a demandé au Seigneur, mais fais-moi grâce et étends mon influence, étends mon champ d'action. Et tu auras aussi, tu laisseras un héritage. Sois conscient de cela. Qu'est-ce que tu laisseras aux autres, aux futures générations? Même en tant que jeune personne, imagine-toi déjà. Pour nous, c'est important comment les autres y parlent de nous, n'est-ce pas? C'est vachement, oui, difficile quand même quand dans les réseaux sociaux et tout, on nous traite de je ne sais pas quoi. C'est important. Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je donne comme image aussi à l'extérieur? L'héritage que je vais laisser en tant que père, que tu vas laisser en tant que maman sur tes enfants, ça va être énorme. C'est une bénédiction. Dans son livre de Craig Hill, le plan de Dieu a toujours été de transmettre et de communiquer à chaque personne son identité et sa destinée. Ça, c'est le plan de Dieu. Il voudrait que cette belle image de Dieu, cette bonté de Dieu, son amour soit implantée et enracinée dans ton cœur. Mais comment? Comment il va s'y prendre? Qui va le faire? Et il dit, pour cela, il a chargé des agents spéciaux. Les agents spéciaux, c'est qui? Eh bien, c'est vous, les pères et les mères. Vous êtes agents spéciaux. Depuis quelques années, on parle de cette théorie des genres, n'est-ce pas, où on dit, bon, il y a homme, femme, mais il y a peut-être encore autre chose, il y a d'autres expressions, d'autres sexes, d'autres. Il n'y a pas que la famille, mais il y a aussi des modèles alternatifs. Et la famille, en tant que modèle unique dans notre société-là, elle est fortement contestée. Et dans cette théorie des genres, on ne parle plus de parents d'ailleurs. On les appelle, enfin, on ne parle plus de mère et de père, mais on les appelle parents 1 et parents 2. Réfléchissez à ça. Qu'est-ce que ça fait? Tu n'as plus un père et une mère, forcément, mais tu as un parent 1 et un parent 2. Mais oui, parce que ce n'est plus forcément logique qu'on a un père et une mère. Il y en a aussi maintenant des gens qui ont une mère et une mère, ou qui ont juste un père ou une mère, ils ont juste encore un parent. Mais voilà, ça c'est la manière dont notre monde essaye de concevoir la famille et de briser aussi cette famille que Dieu a créée. Mais je redis, c'est par tes parents que Dieu voulait te bénir. Ça s'est plus ou moins bien passé. Et peut-être il y a aussi ici très clairement la notion du pardon. Dois-je pardonner quelque chose ou dois-je aller vers mes enfants ou vice-versa, et y a-t-il quelque chose à clarifier? Je peux vous dire, un jour, à l'âge de 14 ans, mon père, il m'a donné une gifle devant d'autres personnes. Waouh, j'étais détruit, j'étais. Et j'avais une rage en moi, je dis, si je pouvais le tuer là, je le tuerais. J'avais ça dans mon cœur, contre mon père. Et j'ai très longtemps évité mon père. Je l'ai vraiment, j'ai trouvé que c'est un homme juste, mais dur. Un homme droit, mais dangereux un peu. Voilà, si je m'approche trop de lui, c'est toujours, c'est jamais bon, c'est jamais comme il faut. Alors je l'ai évité. Et ça a duré longtemps. On n'avait pas une vraie relation. On avait juste une relation, oui, j'ai besoin de quelque chose, tu m'aides, donne-moi un peu d'argent. Et puis, vous voyez, c'est un peu ce type de relation qu'on avait. Mais Dieu est intervenu dans ma famille et dans ma relation avec mon père. J'ai mis des années, c'était à l'âge de 30 ans, qu'un jour, mon père, pendant une promenade, il m'a dit, « Et toi, qu'en penses-tu de notre éducation ?» Il dit, « Voilà, ben, c'est sur un plateau argenté, quoi. Là, je peux y aller. » Et puis, voilà, on a eu une discussion profonde. Et il y a eu des démarches de pardon qui ont été faites. C'est vrai. Des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est peut-être... Mais parfois, ce sont des vrais morceaux qui restent bloqués ici à la gorge et on en souffre. Donc, par toi, en tant que mère et père, ou grand-père, grand-mère, Dieu voudrait bénir ta progéniture. Jusque dans la troisième ou quatrième génération. J'aime bien ce psaume aussi, psaume 128. Heureux, quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. L'importance de la table familiale ici, vous l'avez remarqué, mes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Il faut des fois que j'insiste sur cette table familiale parce que, je ne sais pas si, peut-être en France ça existe, peut-être la table est déjà préparée pour après, n'est-ce pas, et la dinde est dans le four ou j'en sais rien. Mais aujourd'hui, se retrouver une fois par semaine ou une fois par jour autour de la table avec nos enfants, ça devient difficile. On a la mentalité du frigo. Chacun se sert et puis quand le frigo est vide, ben on gueule. Moi, je préfère cette version-là et je me bats vraiment, je me bats avec mes enfants aussi que le dimanche soir, on soit tous autour de la table. Et même à 17 et 15 ans, je veux vous dire, ils rouspètent un peu, mais ils sont quand même contents qu'on soit là. Et on a des discussions intéressantes et nous lisons dans la Bible ensemble. Et ça se prépare aussi, ce sont des moments de bénédiction. Franchement, n'abandonnez pas la table, parents. C'est un combat, moi je suis dedans. Hein, mais de passer un moment autour de la table ensemble, c'est une sacrée bénédiction. Identité et destinée. Qui suis-je donc dans l'identité? C'est ça la question. Qu'est-ce que je vaux? Beaucoup de jeunes se posent certainement cette question, et pas que les jeunes, parfois aussi des personnes avancées en âge, ils n'ont pas jamais réglé cette question réellement. Et on voit des fois des hommes, de la quarantaine, de la cinquantaine, qui se définissent uniquement à travers le travail et la valeur et la paye qu'ils gagnent. Et des fois dans l'église, il y a des gens qui ont un ministère ou une fonction, et dès que tu leur enlèves cette fonction, ils ne sont plus rien. Et ils se vexent. Et ils disent, je quitte l'église, on ne m'a plus réélu, je ne suis plus dans le conseil. Et j'ai vu des choses comme ça se passer. Et ça m'a toujours rendu triste. J'ai dit, mais tu as servi 30 ans dans l'église, tu as entendu des prédications tous les dimanches et tu n'es pas plus avancé dans ton identité et dans ta construction personnelle. En fait, tu as encore un cœur d'adolescent quoi, qui cherche à être approbé par tout le monde. C'est problématique, vraiment problématique. Et les églises n'avanceront pas tant que nous n'élevons pas le niveau et aussi que nous apprenions à nous estimer tels que nous sommes et nous donner cette identité que Christ, il nous donne en lui seul. La destinée, c'est aussi qu'est-ce que je fais, à quoi suis-je utile. Ces deux questions, qui pourra nous les répondre ? Qui pourra nous donner vraiment une réponse à cela ? Où est-ce qu'on va nous aider à clarifier ça ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est les institutions ? Est-ce que c'est l'école qui pourra nous dire qui nous sommes ? Est-ce que c'est dans le monde entrepreneurial ? Est-ce que c'est est-ce que ce sont les agents sociaux ? Moi, je vous dis quelque chose. C'est dans la famille que Dieu a voulu que ces questions soient réglées. Dans le cocon familial, dans l'intimité. Nous avons donc vu jusqu'à maintenant un peu quel est le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, vraiment, c'est de bénir des familles et d'unir les familles, de les réunir. D'ailleurs, la Bible, l'histoire d'Israël est une histoire de famille. Abraham, je te bénirai, n'est-ce pas ? Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et parce qu'une telle bénédiction a été dite et donnée, et elle a été perpétuée de génération en génération, Israël est béni aujourd'hui parmi les nations. C'est un peuple et c'est un pays qui prospère à cause de la bénédiction d'un seul. Et les nations, ils s'arrachent les cheveux et ils se disent, mais comment Israël peut-il être béni ? Comment ce petit peuple, il peut être là ? Mais Dieu l'a béni d'avance et c'est pour nous un exemple de rentrer aussi dans cette bénédiction. Et Isaac, Jacob, mais attendez, n'ont-ils pas vendu un frère dans cette église, dans cette famille ? N'a-t-il pas eu des excès ? N'a-t-il pas eu des violences ? N'a-t-il pas eu des enfants illicites, etc. Ah si, dans la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on voit toutes sortes de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et ce n'est pas la famille parfaite. Je crois justement que Dieu ne voulait pas nous montrer une famille parfaite. Parfois dans les églises, on est en train de vouloir présenter la famille parfaite. Le pasteur, il montre le dimanche matin sa famille parfaite. Oubliez quoi, ça ne marche pas, ce truc, ça. Mes enfants, ils rentrent pas là-dedans déjà, c'est perdu. Alors ça, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de bénir à travers la famille. Et maintenant, je voudrais vous parler courtement du plan de l'adversaire. Est-ce que j'ai encore quelques minutes ? Le plan de l'adversaire. Parce que le diable, il va toujours contrecarrer le plan de Dieu. Il est fort là-dedans. Son plan, pour être court, c'est de détruire et de remplacer le modèle familial que Dieu a donné. Dieu a voulu que les hommes naissent par des parents. Nous sommes tous nés par des parents. Pourquoi Dieu l'a-t-il fait comme ça ? Je ne sais rien. Il aurait pu faire de la sorte que les enfants y tombent des étoiles. Mais il a voulu que nous naissions, que nous sortions des entrailles de notre mère et que nous sommes à jamais liés les uns avec les autres. C'était ça son destin. Mais le diable, il veut casser il veut détruire et remplacer la famille par autre chose. Voilà, il y a des modèles alternatifs maintenant. Il veut implanter son message négatif et destructif dans nos cœurs. Et en particulier chez les enfants. Dans le livre de Craig Hill, justement, le message de Satan, il peut ressembler à cela. Peut-être tu as entendu cette voix du tentateur aussi, qui te dit tu n'es rien, tu n'as aucune valeur, quelque chose ne va pas avec toi, tu ne devrais pas être ici, tu es moche et trop gros ou trop petite ou trop si. Ça, ta peau n'a pas la bonne couleur. Tu es juste le produit d'une nuit de passion. tu es un accident. Tes parents voulaient une fille ou ils voulaient un garçon. Tu n'as pas le bon sexe. Personne ne va jamais t'aimer. Tu ne trouveras personne qui voudra être ton ami. Tu peux en finir maintenant. Le diable, il cherche à nous faire douter en fait de notre identité et il utilise des phrases comme ça que l'on a entendues. Et même Jésus a été tenté de cette manière juste après que le Père lui a dit « Tu es mon fils ». Le diable, il vient dans le désert, c'est peut-être dans la même journée ou je sais pas, ou la journée suivante. Et le diable, qu'est-ce qu'il lui dit ? Vous connaissez votre Bible ? Si tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu es là? Pourquoi tu ne manges pas? Fais du pain. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, il met justement en cause cette identité. Le diable, il cherche à mettre HS les agents spéciaux que vous êtes. Il veut vous mettre HS. Il veut briser la protection du cocon familial. Et ainsi, il y a beaucoup d'enfants qui naissent dans des conditions difficiles, des enfants conçus hors mariage. Et pour ces enfants, c'est un handicap dès le premier jour. Peut-être aujourd'hui, on minimise ça. On dit, oui, moi, c'est aussi une famille, il n'y a pas de problème. Mais moi, je dis, c'est un sérieux handicap. Et sois béni si ce n'est pas ton cas. Heureux sois-tu si vous avez une famille qui tient ensemble. Mais aujourd'hui, on est dans un monde à consommation, des liaisons juste à but érotique, juste à but de satisfaction érotique. Ça, c'est la norme de nos jours. Il suffit de regarder un peu autour de nous. Et puis des parents qui sont absorbés et absent à tout va, qui ont des enfants mais qui ne s'en occupent pas. Bon, je passe. Moi, je dirais, il faut nous être conscients de notre rôle de parents et instituer des temps de bénédiction. Parce que ce que je viens de dire sur l'ennemi, c'est vrai, mais la Bible ne nous conseille jamais la passivité ou le repli sur soi. Elle nous dit, dans Romains 12, verset 21, « Ne sois pas vaincu par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » On doit plutôt rompre avec certaines malédictions. Tu peux dire sur toi-même ou tu peux dire sur tes enfants des bénédictions de Dieu, c'est le message de Dieu. Pour toi, pour nous, tu vaux cher à mes yeux et je t'aime. Tu es bien ici et ta place est ici. Tu es unique et extraordinaire. Tu es beau et belle. J'aime tes cheveux, ton nez, ma peau. Quand je vois ton visage, tu me fais sourire. Tu te rends compte? Le Père dans le ciel qui sourit. Peut-être tes parents ne t'ont pas attendu, mais moi si. Ta maman t'a porté 9 mois dans son ventre, mais moi, je t'ai porté 1000 ans dans mon esprit. Tu es né au bon moment. Je savais où et comment tu allais naître. Tu as le sexe qu'il faut, avec lequel je t'ai créé. Tu seras aimé et voulu par d'autres à cause de mon amour. C'est des choses que Dieu dit, que Dieu pense sur nous et que toi, tu peux aussi dire à tes enfants. Je termine avec ça. Dieu nous a choisis, élus dès le ventre de ma mère, dès le ventre de notre mère. Paul, il dit, celui qui m'a choisi dès le sein de ma mère, qui m'a mis à part pour le ministère dès le sein de ma mère. C'est dire peut-être, quand un enfant est conçu, quand il est encore dans le ventre de sa mère, bon, moi je touche mon ventre, je ne sais pas pourquoi je touche mon ventre, mais les mères, elles peuvent le faire, parce que Et les pères peuvent aussi, à ce moment-là, bénir l'enfant qui est en train de naître, qui va venir. Et il peut déjà lui dire, bienvenue mon petit, bienvenue petite fille, tu seras bien accueilli. L'enfant dans le ventre, il sentira la bienveillance. Il va savoir, ah, je suis en sécurité dans le ventre de ma mère, mais quand je sortirai, je suis en sécurité aussi. Et il y a beaucoup de traumatismes aussi parfois autour de la naissance, parce que certains enfants ne veulent pas naître, ils préfèrent rester dans le ventre de leur mère, et à cause de l'insécurité aussi. Je dis, c'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas que certains enfants, ils naissent sous des circonstances dramatiques. Quand notre fils est né, Valerio, que vous avez vu, le grand là, il joue au basketball, quand il est né, en 2002, on était à l'hôpital donc avec le gynécologue, et puis ma femme, elle accouchait, et c'était les coups de midi. Donc c'était un petit hôpital en Alsace, campagne, et la fenêtre était ouverte. Je ne sais pas si ça se fait aujourd'hui encore à Genève. Je ne pense pas que les fenêtres sont ouvertes quand une femme accouche, mais dans cet hôpital, c'était le cas. Et puis, fenêtre ouverte, et puis boum, boum, c'est le coup le midi. Et puis, le fils arrive. Pile poil à midi, c'était vraiment rigolo. Et on a dit, ah ben tiens, il a faim, quoi. Et c'est l'heure du repas. Et puis, on a donné le nom à notre fils, Valerio. Valerio qui veut dire, il est fort. Et c'est vrai, ce qu'on a dit sur lui et de lui, il est devenu un garçon grand et fort, il est plus grand que moi, il est costaud, il fait du sport, et quand je le vois, je suis, enfin nous les parents, il y a une bénédiction qui a été dite, déjà aussi en donnant un nom, quand un enfant naît, dès le jour, dès le ventre de ma mère, c'est ça, béni soit le jour où tu es né. Qu'est-ce qu'on fait le jour où quelqu'un naît? Ben, on lui donne un nom. Nous, on a choisi un nom pour notre enfant. Dans l'histoire de Samuel, 1 Samuel, Anne, elle était tellement heureuse que Dieu lui a donné un enfant, un fils. Et elle appelait Samuel, qui veut dire l'Éternel a entendu. Tu es la réponse de l'Éternel. C'est une bénédiction. Puis, il faut bénir les ados. Ça, c'est très important. C'est une étape très importante. Bon, toute leur vie, mais un ado, en Israël, ils ont institué la bar mitzvah ou la bat mitzvah pour les filles. À l'âge de 15 ans, on va vraiment les considérer pour des adultes maintenant. Et à travers une cérémonie, on les bénit et on les laisse partir dans cette vie-là. Il y a aussi, à un moment donné, le cordon qui doit être coupé. Et on ne peut pas laisser nos enfants, on ne doit pas les attacher à nous, mais il faut les laisser. Et là, à cet âge-là, à l'âge d'adolescence, le rôle du père est tellement important. Le rôle de la mère aussi, mais jusqu'à 12 ans, je dirais, c'est beaucoup la maman, hein, maman qui cuisine, maman qui fait beaucoup de choses pour ses enfants, mais pour fixer l'identité de cette jeune personne, il faut une mère et un père. Et j'insiste sur les pères parce que souvent, ils sont pas là, ils sont absents justement, trop travail ou divorcé, malheureusement aussi, beaucoup de couples ont divorcé quand les enfants sont justement dans l'adolescence. Et puis, t'as un ado qui se cherche, qui dit, mais est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis bien comme je suis? Et puis là, le père, il va aider à fixer l'identité sexuelle de cet humain. Et si nous ne le faisons pas, ben, le monde, il le fera à sa manière. Oui. L'adolescence, c'est un âge fantastique, je trouve. Comme quand tu vois la transformation, la métamorphose d'un être humain, d'un garçon et d'une fille, mais c'est tout simplement splendide. Et si les parents ne sont pas là pour leur dire, mais tu es magnifique. tu es tellement belle. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que vous, les parents, vous leur dites ça? Je le dis un peu, je suis aimé parce que je le dis à mes enfants et ils ont besoin d'entendre ça. Je suis sûr parce qu'ils se cherchent dans ce monde. Ils cherchent l'approbation, justement. Ils cherchent la bénédiction. Si nous ne leur donnons pas ça, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a beaucoup il y a des filles aussi qu'il faut leur dire, tu es belle, ne te balance pas, ne sois pas une proie facile. Tu vas voir, il y a un prince qui va venir et il va payer le prix fort pour toi. Il faut leur parler comme ça à nos ados. Amen. Oui. Hein? Ça, c'est les pères aussi qui doivent le dire aux filles. Parce que quand un père dit ça à sa fille, qu'elle est belle et qu'elle est humble, c'est différent que si la mère seule le faisait. C'est très important. Voilà, rôle des pères. Le rôle des pères, j'ai juste encore ceci. J'ai allumé la télé il y a quelques jours, là, et c'est ça qui passait, un livre de Delpar, Le combat des pères. Juste des chiffres, en France, 2 millions d'enfants voient rarement leur père. Et 600 000 ne le connaissent pas. Ça fait beaucoup, hein. La France, 65 millions d'habitants. J'estime 12 millions d'enfants dans notre pays. Sur 12 millions, il y a 2 millions et demi, disons. Enfin, c'est chaque sixième, chaque cinquième qui n'a quasiment aucun rapport avec le sexe masculin. Nous vivons dans un monde à l'envers aujourd'hui. Vraiment, c'est... Et qu'est-ce que ça fait avec tous ces enfants qui ne connaissent pas le vis-à-vis masculin? Ben, ils ont du mal à fixer leur orientation sexuelle, à mon avis. Et un des résultats, c'est, oui, avec les médias qui leur disent, ben, cherche-toi, essaye, peut-être tu es autre chose. Ça vient de là. Voilà les temps de bénédiction, je l'ai dit. Lors du mariage aussi, j'en passe, et dans la vieillesse. Dans la vieillesse, oui, la bénédiction continue, et quand les rôles s'inversent à un moment donné, et ce sont les enfants qui se lèvent et qui bénissent leur mère et qui bénissent leur père. Qui disent, tu as été une mère formidable, je te bénis pour tout ce que tu m'as fait, pour tout. Ça va venir, les parents, et ça va... Des fois, on l'attend, mais trop tôt. J'aimerais bien, des fois, que mon ado maintenant, Matteo Valerio, me dise, merci papa. Tu peux attendre, mais c'est pas encore... Ça viendra, ça viendra. Dans Proverbe 31, verset 28, ce proverbe, il porte le titre « Éloge de la femme de valeur ». Et au verset 28, il est dit que les fils de cette femme se lèvent et la disent bienheureuse et ils font l'éloge. Je termine et je dis juste, voilà, c'est un cercle. Il y a une prochaine génération qui vient et oui, la vieillesse, et c'est ça le plan de Dieu. J'espère que vous ne doutez pas trop de ce plan de Dieu parce que c'est le seul qui vaut. Et bénissez vos enfants, bénissez la famille. Je vous invite à un moment de prière. Peut-être on peut avoir juste un peu de l'instrumental. J'aimais beaucoup aussi ce chant qui disait « Je ne suis plus un esclave de la peur ». Ça va tellement bien avec ce qu'on vient de dire. « Je suis un enfant de Dieu ». Voilà mon identité. Et levez-vous là où vous êtes et puis prenons un petit moment de prière et bénissez vos enfants, présents ou absents. Bénissez les membres de votre famille qui, si vous n'avez pas d'enfants, ben... Bénissez vos parents peut-être ou demandez « Seigneur, bénis ma famille ». Mais bénissez vraiment ces enfants, aussi ceux qui se sont éloignés. Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce plan merveilleux, ce plan magistral, Seigneur. Merci pour ton amour pour nous, pour ta bénédiction qui est toujours là, Seigneur, toujours accessible. J'aimerais vraiment te dire combien tu es un Dieu, un Père merveilleux. Merci parce qu'à travers toi, à travers ta paternité, j'ai pu comprendre aussi et bénir mon Père terrestre. J'ai pu aussi comprendre combien tu l'aimes malgré ses imperfections. Et moi, je suis aussi un Père imparfait. J'aimerais te remercier parce que toi, avec ta paternité, avec ta maternité aussi, tu es présent, Seigneur. Tu n'es ni homme ni femme, Seigneur. Toi, tu es... Ta parole dit que... Oui, tu nous aimes comme une mère qui porte ses enfants. Et tu es aussi comme un père qui... Oui, qui éduque ses fils pour leur bien. Merci pour ton éducation. Merci, Seigneur, pour ton plan. J'aimerais vraiment te demander qu'aujourd'hui, Seigneur, ton plan grandisse en nous, que nous puissions voir un bout de chemin de plus, Seigneur, pour nos familles, pour notre propre futur, que nous ne soyons pas livrés, Seigneur, aux valeurs, Seigneur, de notre siècle. Toi, tu as mieux, Seigneur, pour nous. J'aimerais aussi te prier. Bénis ceux qui n'ont pas de famille. Bénis ceux qui sont blessés. Bénis ceux qui ont été détruits, qui ont été abusés, Seigneur. Jésus, c'est horrible. Je te remercie parce que toi, tu peux accéder aussi à cela et tu peux donner une délivrance. Il n'y a pas de limite pour toi, Seigneur. Tu peux guérir notre âme. Tu peux enlever, Seigneur, cette impureté qui parfois colle, Seigneur, sur nous. Tu te purifies. Même dans le corps, Seigneur, même les traces qui sont encore dans notre corps, dans nos entrailles, Seigneur. Glorifie soit le nom de Jésus. Merci, tu es merveilleux. Amen. Amen. Voilà. Bon dimanche aussi de ma part. J'ai beaucoup aimé ce moment avec vous.
Ok, merci pour cette exhortation. Je pense qu'on a... Il y en avait pour tout le monde, avec ou sans enfants. On a tous une mère, qui peut-être n'est plus là d'ailleurs, mais ça n'empêche pas de peut-être régler les choses avec le Père céleste, et puis après de régler les choses dans nos familles. Et tu salueras ta famille pas parfaite pour nous, Rico. J'ai bien aimé quand tu as dit que ta famille n'était pas parfaite, parce que tes enfants n'étaient pas parfaits. Je me suis dit, ça t'arrange bien de dire ça, là. Tu t'es pas, tu t'es pas mouillé sur ça. Donc tu salueras ta famille pas parfaite de notre part et tu leur diras qu'ils ne sont pas seuls, que nous non plus on ne l'est pas. Je vais partager les annonces avec vous pour cette semaine. On a la chorale jeudi, 20h. Le groupe de jeunes samedi, est pas mal celle-là, hein. Les beaux gosses. Le groupe de jeunes samedi à 20h. Dimanche prochain, on aura un culte. C'est un peu un hasard de calendrier, mais ça va dans la veine de ce qu'on a vu aujourd'hui par rapport à l'héritage familial, à bénir les enfants. Spéciale fête des mères, j'ai marqué. Donc Phil nous fera spéciale fête des mères. Je ne sais pas en quoi ça consistera. Moi, j'ai mis un cadeau, mais vous verrez bien, je ne sais pas. Donc un chouette moment à partager. Et puis juste encore deux annonces, on va un tout petit peu plus loin dans le temps. On rappelle le Frères d'Armes qu'on organise le 22 juin. C'est marqué 9h30, mais on fixera l'horaire. Réserver la journée, donc les hommes, on va peut-être parler du rôle de père, j'en sais rien, on verra ce qu'on fait. Et le lendemain du 22 juin, ça c'est une date que vous n'avez pas encore, il y aura le culte à la Lécherolle. Donc le dimanche 23 juin. Pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est le culte à la Lécherolle, il n'y aura pas de culte ici le dimanche 23 juin, on ira à la montagne. À la montagne, il y a environ...
Vous êtes les bienvenus, hein.
Ah ouais. Et c'est la seule photo que Google m'a donnée ce matin. Hein, où,
Ça, c'est mon père.
Chien VTT aussi interdit, tout va bien. Mais je crois que c'est chrétien autorisé, donc on va lui mettre le panneau. On va lui rajouter un petit truc. Donc la Lécherolle, c'est à 30-40 minutes d'ici en voiture, et puis après 15 minutes à pied, mais super simple. Il n'y aura pas de culte ici, donc réservez votre date le 23 juin, c'est un super bon moment. Un truc pas du tout aux normes, je pensais être matin, mais on s'en fout, quoi. Et on y va et on passe un bon moment. Donc réservez votre date pour le 23 juin, ça sera un bon moment d'église. Et bon dimanche à chacun.